Le scandale à cette époque, c'était de le revendiquer.
C'est contre nature ce qu'ils font quand même, hein.
Moi, je trouve ça dégoûtant.
Alors, les mal baisés, oui, oui, on est mal baisés, oui, oui. T'as trouvé.
J'ai eu une période où je m'habillais comme une folle, mais le souvenir que j'en ai, c'est que ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a libéré.
Eh bien, on va se libérer ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de cinéma, de foi, de séries télé, de maladies, de sons et même de teuf d'enfer. Avec Joaquim Pinto qui signe Et maintenant, un film documentaire en forme de journal intime où le combat contre la maladie d'un réalisateur dans un pays en crise, Benoît Lagan.
Dans son film, Joaquim Pinto déclare « Je voulais filmer le virus, je filme le travail » dans un journal intime qui permet au cinéaste de revenir sur son parcours professionnel et militant au Portugal et ailleurs.
19h30, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, son invité est Olivier Dohu, mixeur son. 19h35, plateau production avec Bruno Nahon qui fête son anniversaire ce soir, ici même. Il a 40 ans, il a au moins deux films césarisés et il est auteur d'une série à succès, ainsi soit-il, sur Arte. Tout va bien pour lui, Manu Farine.
De la télévision au cinéma, du documentaire à la fiction, du capitalisme au séminaire, portrait d'un producteur nouvelle génération pour une filmographie placée sous le signe de l'engagement.
19h50, ce sera la session du lundi. Ce soir, le groupe Guts.
Oui, session du hip-hop après tout avec le producteur et artiste français Guts et ses musiciens. Ils seront en direct dans le studio 108 et ils interpréteront Man Funk.
Ça veut dire quoi, Guts?
Ça veut dire trip.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez qui s'ouvre bien sûr sur le son du jour.
Merci vraiment de notre cœur de la part de l'Orchestre National de France pour les cadeaux qui ont été faits. Ça, c'est pas seulement la maison de la musique pour les musiciens, le musicien de l'Orchestre National de France, notre ami de l'Orchestre Philharmonique, c'est votre nouvelle maison de la musique à Paris. C'est une date extraordinaire, historique. Merci à la ville de Paris. Merci à tous.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Un son très corporate pour ce son du jour, ou plutôt le son du week-end.
Exactement, on était obligés d'en parler. Celui que vous entendiez, c'est Daniele Gatti, directeur musical de l'Orchestre National de France. Il s'exprimait à la fin du concert qu'il a donné, le concert d'inauguration du nouvel auditorium de Radio France. Je le rappelle, ce week-end, la maison rouvrait au public et le public est venu très nombreux. 25 000 personnes se sont déplacées pour assister au concert dans l'auditorium, au studio 104, aux émissions en public. On y était d'ailleurs. C'est plus du double de ce qui était attendu, mais on espère qu'ils reviendront.
Et l'on passe maintenant au dossier du jour et on reste dans le domaine de la musique classique puisque les orchestres du monde entier ont ouvert aujourd'hui une journée d'action pour sauver le modèle de l'orchestre classique de plus en plus menacé. C'est la première fois qu'une campagne d'une telle ampleur est lancée, Zoé.
Oui, alors l'heure est grave, elle nécessite l'union sacrée, c'est ce qu'a dit la Fédération internationale des musiciens qui est à l'origine de cette campagne. Une journée d'action aujourd'hui, mais pendant toute la semaine, des tracts vont être distribués dans toutes les salles d'Europe. Et en France, avant chaque représentation, un discours sera lu. Tous les orchestres donneront le même bis à l'issue des concerts, l'ouverture des Noces de Figaro de Mozart avec un petit air de rébellion. Cette manifestation aura aussi des échos en dehors même de l'Europe, comme l'explique Fabienne Voisin, directrice de l'Orchestre National d'Île-de-France.
C'est une initiative qui n'est pas qu'européenne, elle est mondiale, hein, puisque ça concerne également des orchestres en Amérique du Sud, au Canada également. L'initiative vient du fait de sensibiliser le public, les élus, nos musiciens également, sur des disparitions inquiétantes d'orchestres à travers le monde. Et surtout en Europe, puisqu'il y a la Grèce qui a perdu des orchestres, Copenhague également, Concertgebouw d'Amsterdam, là c'est quand même l'un des piliers des orchestres européens, et puis évidemment le récent exemple de Rome.
Car en effet, le Concertgebouw d'Amsterdam va être victime de coupes drastiques. Et à Rome, le chœur et l'orchestre de l'opéra ont été purement et simplement licenciés. En France, plusieurs ensembles sont aussi menacés.
Oui, petite liste. Rien que cette année, la ville de Caen n'a pas reconduit sa convention avec les arts florissants de William Christie. L'opéra orchestre de Montpellier est en très grand danger depuis que la ville lui a retiré sa subvention de 4 millions d'euros. L'orchestre Dijon-Bourgogne a échappé au pire, c'est-à-dire à la disparition pure et simple, grâce à une subvention exceptionnelle de la ville de 180 000 euros. Au total, il y a 40 orchestres permanents en France. Et à l'heure de la crise économique, la tentation est grande de se dire que finalement, avoir des orchestres permanents, ce n'est pas si important qu'un orchestre de freelance, comme ce qui va être mis en place à Rome, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Pourtant, la permanence, c'est la clé dans l'orchestre, explique Marc Slipper, patron du syndicat des musiciens CGT.
On travaille à 40, 60 ensembles. C'est un travail d'une exigence totale et vous mettez deux orchestres côte à côte, un orchestre composé pour l'interprétation d'une œuvre ou un orchestre permanent, bah, tout de suite vous avez un son, vous avez une finesse de l'interprétation. Et en plus de ça, l'orchestre dans la cité, tout ce travail d'éducation artistique, d'apprentissage, de curiosité que font les musiciens des orchestres dans les écoles. Les musiciens ont vu leur métier d'ailleurs évoluer. Ils ne sont pas que des interprètes remarquables parce que la qualité des orchestres ne cesse de progresser, mais ils vont à la rencontre des jeunes et des moins jeunes. Tout ça n'est possible que parce qu'il y a une permanence de l'emploi, on le comprend bien.
Même les orchestres français, qui ne sont pas victimes de coupes budgétaires, sont concernés par cette menace.
Oui, et le but de cette campagne d'ailleurs, c'est de faire entendre la voix des orchestres avant qu'il ne soit trop tard. Car si les subventions ne baissent pas, au mieux, elles stagnent. Et déjà, c'est un vrai problème, comme l'explique Fabienne Voisin, directrice de l'Orchestre National d'Île-de-France.
À chaque fois que les subventions n'augmentent pas, c'est comme n'importe quelle entreprise. Nous sommes sous les mêmes lois, c'est-à-dire que nous avons des salariés, que sont les musiciens, puisque un orchestre, c'est une entreprise de main-d'œuvre extrêmement spécialisée. Dès lors qu'elle rentre dans un orchestre, il y a tout un facteur qu'on appelle le GVT, qui finalement cumule et à la fois l'ancienneté. Et donc, de fait, mécaniquement, chaque année, la part qui est due au fonctionnement d'un orchestre, donc au salaire également, augmente. Et si les subventions ne suivent pas derrière, eh bien on va prendre sur la part qui est dévouée à l'artistique, à la programmation, aux invités, des solistes et des chefs qui font vivre chacun des programmes qui sont donnés. Et au bout d'un moment, évidemment, nous n'avons plus de place pour donner et prévoir ce concert-là.
Voilà, alors la campagne va durer toute la semaine. Le but, c'est de faire pression, notamment en France, sur le gouvernement, avant la loi sur la création qui va être déposée au Parlement au premier trimestre 2015, et aussi avant la réforme territoriale, puisqu'elle va considérablement bousculer les tutelles et les budgets sur lesquels les orchestres demandent vraiment d'avoir un dialogue avec les pouvoirs publics.
Et l'on passe aux brèves. La première, l'Allemagne augmente le budget de la culture, c'est une bonne nouvelle, de 4,26%.
Hausse importante à saluer alors qu'en Europe, on l'entendait à l'instant, les budgets baissent, voire au mieux stagnent. C'est un geste important du pouvoir fédéral, mais rien n'est gagné. Il est surtout là, ce geste, pour inciter les Länder à en faire autant, puisque je le rappelle, ce sont majoritairement eux qui sont décisionnaires en matière de culture.
Bonne nouvelle, TF1 et YouTube enterrent la hache de guerre.
Alors, oui, les deux. Pas si bonne que ça. C'est une réconciliation. Voilà. Les deux entreprises ont annoncé la conclusion d'un accord qui met fin à un litige qui date depuis 2008. À l'époque, le groupe audiovisuel avait déposé une plainte contre Google ainsi que contre Dailymotion et leur réclamait des millions d'euros de dommages et intérêts pour avoir hébergé illégalement des contenus issus de ces programmes. YouTube, avec cet accord, réaffirme sa volonté plus généralement de garantir aux titulaires de droits le contrôle de leurs contenus sur le web.
Et la dernière ?
La dernière. C'est une histoire de culture populaire, de racisme, de petits-enfants, de baston, une histoire de Noël finalement. Car c'est le début de la saison, et oui. Alors vous le savez, dans les pays du Nord, mais aussi aux Pays-Bas, le Père Noël s'appelle pas Père Noël, mais Saint-Nicolas. Il fait une grande tournée qui commence dès novembre. Quelle angoisse! Plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux enfants, s'étaient donc rassemblés à Gouda, une charmante ville de l'Est des Pays-Bas, pour accueillir, comme il se voit, Saint-Nicolas, qui est arrivé en bateau avec tous ses copains, les cerfs, et qui devait donc défiler avec un très joli char. Sauf que tout a dégénéré, car, vous le savez aussi peut-être, dans la tradition scandinave, mais aussi batave, il y a Saint-Nicolas et de l'autre côté, il y a le méchant Père Fouettard. Alors nous, on l'appelle Père Fouettard en France, mais là-bas, il s'appelle Zwarte Pieter, ce qui veut dire en fait Pierre le Noir. Et donc, dans ce genre de manifestation, c'est en fait un homme blanc qu'on couvre de cirage noir qui interprète ce Père Fouettard. Et depuis des années, eh bien, il y a des associations qui s'opposent à ce que ce personnage subsiste et qui dénoncent du racisme pur et simple. Ils étaient donc une dizaine de manifestants ce jour-là. Et là, tout a dégénéré en baston généralisé. Il y a eu des coups, des blessés, 90 personnes arrêtées. Et tout ça, évidemment, au milieu des enfants. J'adore Noël.
Et les cerfs, j'espère qu'il n'aurait rien arrivé.
Jamais.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités, Bruno Nahon, Joachim Pinto? Bruno Nahon, je voyais réagir plus ou moins à la nouvelle entre TF1 et YouTube. C'est quelque chose qui vous intéresse?
Non, c'est un vieux souvenir parce que j'avais intenté un procès à YouTube et à Dailymotion.
Pour quelle raison? Sur le même principe?
Il y a presque 8-9 ans, sur le principe que cette loi sur la confiance numérique qui dit qu'on héberge mais on n'édite pas, juste n'importe quoi. Voilà. C'est-à-dire que vous mettez une vidéo. C'est-à-dire si on décide, si moi, producteur, je décide de donner au public gratuitement une œuvre, par exemple, c'est ce qu'on a fait pour la série sur le capitalisme, l'accord qu'on a avec la chaîne Arte nous permet de le donner 7 jours. On a souhaité le donner, parce qu'il participe au débat public, 60 jours.
D'accord.
Gratuitement.
Ok.
C'est mon fait. C'est moi qui décide. Mais c'est pas Google. On avait gagné.
Combien de millions ?
Très peu. C'était pas pour ça. Ça m'a coûté beaucoup en frais d'avocat.
Joaquim Pinto, est-ce qu'il y a une nouvelle que vous voudriez commenter dans ce que l'on a entendu ou autre chose, vous qui venez du Portugal ?
Oui, je pense aux coupes budgétaires en ce qui concerne la culture et les orchestres en général. Et je crois qu'au Portugal, la situation est semblable. Peut-être pire parce que les budgets ont été réduits énormément. Alors les gens essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais par exemple au théâtre ou même au cinéma, on a vraiment beaucoup de difficultés pour continuer à travailler.
Par exemple, vous, comment vous arrivez à continuer à travailler, à mener votre travail de cinéaste ?
Alors, le cas de notre film, c'est un cas un peu particulier, puisque c'était un petit budget, et c'est un film fait à deux, et nous deux sommes aussi des techniciens, ça veut dire que...
Vous pouvez tout faire, le son, l'image,
le son. Voilà. Et alors, on est arrivé à tout faire nous-mêmes. La seule chose qui a été faite par quelqu'un de l'extérieur, c'était le mixage son. Parce que j'ai fait des mixages son aussi, mais c'est bien qu'on ait une oreille fraîche qui regarde notre travail et qui nous donne... qui apporte un... quelque chose de personnel, mais tout le reste, on l'a fait nous-mêmes, même la correction couleur, etc. Alors, nous sommes un cas spécial, mais la plupart des gens se trouvent vraiment coincés et la production a énormément baissé. Pendant 2 ans, on n'a presque pas eu de
films portugais. Bruno Naon, vous connaissez, j'imagine, cette situation aussi. Comment vous, producteur aujourd'hui, vous la vivez ?
On s'adapte tous les jours, on ne se plaint pas, on avance. Et en même temps, il faut lutter parce qu'il y a des forces naturellement qui se mettent en place et qui ont tendance à écraser les voix les plus faibles et les plus fragiles. Il ne s'agit pas non plus de tout le temps reprocher ou être tourné vers le passé ou en disant voilà, il faut juste s'adapter et aussi faire en sorte que les films deviennent moins chers à produire. Mais il ne faut pas que ce soit la variable, entre guillemets, qui n'est pas une variable humaine, qui en pâtissent. C'est-à-dire que moi, je veux continuer à bien payer les gens. Mais d'autres éléments, on peut jouer. Il y a plein de manettes quand vous produisez.
Le rendez-vous.
Comme je suis ici, Nuno m'obligue à estar vivo. Julgo ver as palavras Nuno e amor. Leio novamente. É a frase de Virgílio. Agora eu sei o que é o amor.
Plateau Journal Intime avec vous, Joaquim Pinto, réalisateur, producteur, ingénieur du son portugais, repéré dans les années 80 comme l'une des figures du cinéma lusophone quand il se portait bien. Votre dernier film est maintenant, sortira en salle mercredi prochain, on vient d'en entendre un extrait à l'instant. C'est votre journal intime, c'est-à-dire un an de combat contre la maladie, vous filmez votre quotidien entre votre maison de campagne de Lisbonne et puis des déplacements en Espagne où vous suivez un traitement expérimental parce qu'en fait, vous prenez des médicaments non approuvés dans le but de lutter contre une hépatite C co-infectée avec le VIH et qui évoluait, expliquez-vous, ça on l'apprend dès le début du film, vers la cirrhose. Le film dure 2h45, ce qui place d'emblée votre spectateur dans une véritable expérience temporelle. Comment cette durée s'est imposée ? 2h45 ?
Une des choses qu'on a au Portugal, c'est compliqué à produire, mais on a une énorme liberté, peut-être parce qu'il y a il n'y a pas une vraie industrie. Ça veut dire que quand on a commencé à tourner, on ne savait pas exactement quelle serait la durée du film. Mais de toute façon, condenser un an de vie dans un film. Et en plus, le film se passe aussi avec des arrière-retours, des flashbacks sur le passé, etc.
Sur vos propres
cinéma, vraiment difficile de le faire plus court. Je pense que je sais que c'est un problème aujourd'hui et je suis vraiment content et surpris en même temps qu'en France, on trouve encore des espaces de liberté et que des films comme ça puissent être distribués, qu'ils arrivent aux salles et qu'ils passent à la télé parce que les choses sont de plus en plus formatées un peu partout. Il y a des pays où ça serait impensable, où je sais que ce n'est pas... faisable de distribuer en salle un film de plus de 2 heures. Mais on nous a posé la question. J'ai une amie, par exemple, réalisatrice que j'ai vue à Berlin. Et elle m'a dit, tu sais, aujourd'hui, on ne peut pas. Il faut que tu coupes au moins 3/4 d'heure de film. Et je lui ai dit, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on pourrait couper. Dans ce cas, ça serait un autre film. Alors... je crois qu'on ne pourrait pas faire autrement. Le temps du film, il s'impose, ça vient de la matière du film.
Bruno Naon, l'avis d'un producteur, bien entendu, j'imagine que 2h45, c'est un format difficile à produire.
Sauf que non, je sors aujourd'hui, j'ai vu avec ma femme, mon amoureuse, que je salue, Interstellar qui fait 2h40. Je pense que tout est possible. Aujourd'hui, vraiment, les possibilités n'ont jamais été aussi nombreuses. Il y a des salles qui sont dédiées et qui travaillent aussi un public qui vient voir des films particuliers. Je sais qu'à Lisbonne, il y a quelques salles, ou deux, je sais, qui travaillent ça. Donc c'est vrai que le maillage marketing, entre guillemets, de l'exploitation, il est de plus en plus fin, mais il y a des débouchés. Après, c'est normal de ne pas souhaiter, quand on fait un film de 2h40 sur un journal intime, de sortir sur 400 copies, ça n'a pas de sens et je pense que c'est pas ce que vous désirez non plus. C'est juste pouvoir rencontrer le public qui est le vôtre.
Benoît Lagan. Alors Joaquim Pinto, votre film est maintenant et ce combat contre la maladie, mais c'est un retour sur soi. Vous revenez sur votre histoire professionnelle et politique depuis votre naissance en 57 jusqu'à la crise des années 2000, en passant par la révolution des œillets en 74. Et dans un entretien au Cahier du cinéma, vous dites que votre film est sans doute moins ambitieux que le projet initial. Quelle était alors l'idée du projet initial ?
Bon. 24 heures non-stop. l'idée au départ, c'était presque de faire un film à thèse sur l'impérialisme et les épidémies, etc. Alors j'avais travaillé pendant 2-3 ans, cherché autour de ça. Et finalement, la matière, la réalité s'impose. Et quand on commence à tourner, il y a des choses inattendues qui arrivent et qui forcément nous obligent peut-être à oublier... un peu cette conception théorique et marcher un peu à l'intuition. Et alors, il y a beaucoup de choses qui sont restées en dehors du film, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un film, mais je crois qu'on a essayé de suivre la logique du film. Enfin, il y a de toute façon une chose à dire, c'est qu'on n'avait pas une idée précise, un scénario fermé, c'était impossible. Parce qu'on ne savait pas ce qui allait arriver.
Puisque c'est le principe d'un journal intime.
Et dans ce cas, comme il s'agit de suivre un traitement dont les résultats sont imprévisibles, et on ne savait pas du tout où on allait arriver. Il y a eu beaucoup de surprises qui sont dans le film.
Alors à propos de la forme, justement, cet autoportrait filmé, on pense ici en France au film d'Hervé Guibert, La pudeur et l'impudeur, que vous citez d'ailleurs dans le film. Mais il y a une différence entre vous et Hervé Guibert, c'est que Hervé Guibert se filmait en sachant qu'il allait mourir, et c'était toute la dynamique de son film. Or, vous, votre film est un combat contre la mort. Je me demandais d'abord comment vous aviez regardé le film d'Hervé Guibert. Est-ce qu'il a pu influencer d'une manière ou d'une autre la façon que vous avez eue, vous, de vous filmer, Joaquim Pinto ?
Il y a une chose, je crois que c'est un faux, mon film c'est un faux autoportrait. Peut-être ça peut donner l'impression que c'est un autoportrait parce qu'il y a peut-être une voix off à la première personne. Mais en effet, à partir, disons, du premier quart quart d'heure du film, c'est un film fait à entièrement
deux.
À deux.
Je sais.
Ça veut dire que...
C'est votre mari, Nuno Lenoël, hein,
voilà.
Qui apparaît dans le film, alors qu'au début, il ne voulait pas y être.
Non, il ne voulait pas, mais à partir d'un certain moment, il y a des séquences qui ont tourné par lui quand j'étais trop faible pour quitter la maison. Ils sont comme des cadeaux qu'il me donne. Il y a des séquences où je suis tout seul. Il y a même des séquences commencées par les deux et à partir d'un moment, continuer par l'autre. Ça veut dire que c'est un film, je pourrais dire, à quatre mains, je dirais même à six mains, parce que j'ai l'impression qu'il y a, mais ça, tout à fait subjectif, mais j'ai l'impression qu'il y a une troisième main invisible qui nous guide dans tout ça et qui, d'une certaine façon, nous dépasse. Alors, il y a un côté personnel, mais l'idée, c'est de faire quelque chose d'un peu plus ouvert.
Donc ça veut dire que le film d'Hervé Guibert n'a eu aucune influence sur la façon que vous avez eu même de penser votre projet ?
Oui, dans la motivation, oui, parce que je croyais que aujourd'hui, c'est des questions qui ne sont plus traitées au cinéma. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où le VIH était un sujet médiatique, ou même les hépatites C. Aujourd'hui, c'est un peu oublié. Et notre idée, c'était... pas de faire un film sur un traitement spécifique, mais d'une certaine façon d'utiliser la possibilité de parler à la première personne pour faire quelque chose de qui puisse être une métaphore pour beaucoup d'autres situations. Et alors, parce que si on faisait quelque chose sur ce médicament ou ce traitement, dans deux ans, ça serait complètement... même aujourd'hui, parce que depuis, il y a des drogues nouvelles, etc. Alors l'idée, c'était de ne pas trop se centrer sur les aspects spécifiques, mais d'ouvrir un petit peu.
Bon, non, vous êtes producteur, mais vous avez été aussi acteur. Vous avez participé à un épisode d'un court-métrage de la série 3000 scénarios contre un virus. Le titre de l'épisode, c'était La teuf d'enfer. C'était quoi ? Vous y jouiez quoi ?
J'ai été acteur pendant, je sais pas, trois semaines dans ma vie.
À ce moment-là ?
À ce moment-là, j'ai fait aussi le laquais de Nick Nolte dans Jefferson à Paris, de James Ivory.
C'était quoi donc ce
Non, c'était à l'époque, c'est vrai.
3000 scénarios contre un virus.
Oui, c'était un grand concours, je crois, qui avait été lancé, où des gens écrivaient des scénarios. Et il y avait un comité qui les sélectionnait et qui les attribuait ensuite à des réalisateurs connus. Il y avait des acteurs connus dedans, des acteurs moins connus. Et moi, j'ai eu la chance à l'époque d'être pris dans un des courts-métrages. Mais c'est vrai que cette thématique, ça me fait penser, parce que Philadelphia est repassé il n'y a pas longtemps, qui est un film qui est encore une fois bouleversant, parce que universel. Et c'est vrai que tout d'un coup, il y a des choses qui disparaissent, alors que la maladie et le réel, lui, ne disparaît pas. Mais médiatiquement, il y a des évanouissements médiatiques comme ça. Et je pense que c'est justement le rôle du cinéma de les remettre à la conscience.
Joaquim Pinto ?
J'allais dire une autre chose, c'est que, et ça c'est très spécifique, le Portugal c'est le pays en Europe occidentale qui a encore aujourd'hui le taux le plus haut de VIH. Il y a beaucoup de discrimination, les gens sont licenciés, normalement les patrons gagnent les procès, alors les gens ont peur. Et on sait qu'aujourd'hui, pour la plupart des gens, on peut vivre avec. Sauf que les gens sont vraiment conditionnés au niveau de leur vie. De toute façon, j'avais l'impression que moi, je n'ai pas un patron. Et je suis, d'une certaine façon, dans une situation privilégiée. Et il fallait que quelqu'un le fasse. Alors, c'est un peu... Mon père, il a 90 ans, il a vu le film, il a dit, je suis très heureux, très, très heureux que tu l'aies fait, parce que si ce n'était pas toi, quelqu'un devrait le faire. Et je crois que ça a aidé des gens. Et heureusement, on reçoit des échos, des gens qui... Maintenant, le film est passé en salle. Et je suis très surpris, parce qu'on reçoit chaque jour... des emails ou des messages par Facebook, et on comprend que finalement le film sert à quelque chose.
Benoît Lagan.
Oui, vous disiez que votre film était un faux autoportrait. Pour autant, on y apprend plusieurs choses sur votre parcours professionnel, et notamment que vous optez pour le son en tant qu'ingénieur du son dans vos débuts au cinéma. Pourquoi le son ?
Et bon, pourquoi le son ?
dans les années 70.
Je crois qu'une des choses qui m'a fait venir au son, au cinéma, a quelque chose à voir avec cette maison.
Et, la maison de la radio ?
Oui, et il y a aussi une liaison aujourd'hui, parce qu'à part nous, moi et Nuno, on ne se voit pas comme des réalisateurs professionnels. On fait beaucoup de choses. J'ai fait du son, j'ai fait de l'image. Et on a une petite maison d'édition où on édite des livres ou des disques de musique. Et le prochain projet qu'on va faire, c'est précisément un livre d'un français. On est en train de traduire, mais c'est un projet, ça fait beaucoup de pages. C'est le traité des objets musicaux de Pierre Schaeffer. Et alors, que j'ai lu quand j'étais très jeune et qui a pour moi été très important aussi pour me décider de venir travailler au son, pas seulement Pierre Schaeffer, mais tout le monde lié à la musique concrète, etc. Et alors, j'espère qu'on aboutisse parce qu'on le fait sans appui. Je ne sais pas combien d'exemplaires, mais ça n'a jamais été traduit en portugais du Portugal.
Alors, comme depuis nos débuts de cette saison, on a demandé à nos invités de nous apporter un son, justement, qui les a marqués. Et voici ce que vous avez choisi, Joaquim Pinto. Identification de ce son, Joaquim Pinto, et qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
Alors, une musique et une musique avec une image, c'est une chose. Ça donne quelque chose d'autre que les deux choses séparées.
Ouais.
Quand on a la bande son du film, il y a beaucoup de musique. Ouais. Et dans la plupart des cas, c'est des disques qu'on écoutait pendant. Cette année de vie, ça veut dire que c'était la musique qu'on entendait. On a fait une chose qui est totalement le contraire de ce qu'on fait normalement dans les tournages. On n'a jamais coupé ou la radio ou le ton de disque. Souvent, des musiques qui sont des musiques enregistrées pendant le tournage, ça passe à musique de film. Et disons, au bout de 2 ou 3 mois, on n'avait pas d'idée précise pour la bande-son du film. Et Nuno m'a suggéré pourquoi pas Jacques Ibert.
Qu'on est en train d'écouter.
Qu'on entend, oui. Et alors, je connaissais Jacques Ibert des musiques de cinéma qu'il a fait, des quelques films qu'il a fait, dont notamment un film que j'aime beaucoup, Macbeth de Orson Welles. Mais je me disais que c'était des choses symphoniques, etc., que ça ne collait pas du tout avec le film. Et c'est Nuno qui m'a fait découvrir ses œuvres pour des petits ensembles ou des instruments solos. Alors, j'étais en train de le découvrir pendant le tournage. Et finalement, ça a trouvé une place presque... aujourd'hui, je pourrais dire que ça ne pourrait pas être autrement. Il s'est lié d'une façon presque organique au film. Et alors, je voudrais un peu partager. Et aussi, il y a une autre question, c'est que pendant une période de ma vie, je m'intéressais à la musique, évidemment, et je jouais de la guitare classique. Alors, cet instrument qui me dit quelque chose de spécial. À un certain moment, j'ai eu un accident. J'ai coupé les tendons de la main et après, j'avais plus la mobilité, alors j'ai abandonné. Mais c'est un instrument qui ressonne, au moins au Portugal et en Espagne, ça fait partie de... Et Jacques Ibert a ce côté assez ouvert pour des influences. Quelqu'un qui écoute ça, probablement ne dirait pas que c'est un compositeur français. Je ne sais pas.
Le rendez-vous. Extérieur.
Joaquim Pinto et Bruno Nahon, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Et ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, qu'elle doit rencontrer le week-end, eh bien, c'est Olivier Dohu, mixeur pour le cinéma, Manu.
Oui, ingénieur du son, notamment pour Guillaume Niclou, mais surtout mixeur son, avec une filmographie vertigineuse qui passe par Patrice Chéreau, Bertrand Tavernier, Catherine Corsini, Cédric Kahn, Léa Fazer, Thomas Vincent, Katia Lefkovitch pour Tiens-toi à droite, et puis même, comme ça tombe bien, Joachim Pinto pour Et maintenant. Et je l'ai rencontré, enfin j'ai dû le rencontrer, comme vous dites, samedi, chez lui, à Paris.
Questionnaire son, Olivier Dohu, Manu Farine.
Le son de votre enfance.
La tempête chez ma marraine, dans une chambre vide, à côté de Villeneuve-sur-Lot, dans un petit village qui s'appelle Payolle.
Le son que vous associez à vos parents.
C'est ma mère qui pleure parce que mon père est parti.
Premier son enregistré ou premier son que vous ayez eu envie d'enregistrer.
C'était sur un court-métrage d'un grand ami à moi qui s'appelle Thomas Vincent, qui a réalisé après Carnaval. On tournait au Havre et il y avait plein de containers vides. Et ils nous avaient demandé de faire des effets. À l'époque, on n'était pas très riche en son. Et puis, on avait cogné sur ces containers vides en enregistrant à l'intérieur, à l'extérieur, avec ce qu'on trouvait par terre. Ça donne comme dans les films américains, des trucs un peu... Blaum. C'est des effets, quoi.
Le film qui a pu vous donner envie de faire ce métier.
Ça, c'est un souvenir avec ma grand-mère, il y a très longtemps. Elle habitait en face du Kino Panorama, qui était une salle à Paris qui avait... du six-pistes magnétiques, qui diffusait avec du son stéréophonique ou multicanal. C'était Voyage au centre de la Terre. Et je me souviens que ce qui me fascinait, les personnages étaient suivis au panoramique. C'est-à-dire qu'on suivait la voix en même temps que l'image.
Une figure de mixeur ou d'ingé son qui a pu être décisive pour vous?
Deux mixeurs, c'est Jean-Pierre Laforce, avec qui je suis resté 10 ans comme assistant. J'ai appris le cinéma, j'ai pas appris le son. Je crois qu'on appréhende le cinéma de la même façon. Ce qu'on fabrique avec le son, c'est de la mise en scène.
Un film qui, pour vous, serait une leçon de mixage?
Le film de Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood. Un type qui travaille dans une mine, je crois, au début. Puis la mine s'écroule et ce type va devenir un mania du pétrole. On commence dans cette mine. Il reste enfermé dans son trou, dans sa mine. Et tout est en mono pendant une demi-heure. Et puis après, on sort dans un train. Et là, ça devient stéréo un petit peu. Plus ce type monte, plus c'est démonstratif, la bande-son. Et puis après, il y a les champs de pétrole, il y a tout ça. C'est vraiment un truc formidable.
Le metteur en scène qui vous aura le plus appris sur votre propre métier?
Patrice Chéreau. Après, à regarder une scène, à comprendre les acteurs aussi. Et la direction d'acteur ne s'arrête pas au plateau. Il le fait en montage, en post-synchro, en les dirigeant de nouveau. Et puis après, il le fait au mixage, parce qu'au mixage, on peut, en travaillant sur les voix, les impulsions qu'on donne aux phrases, certaines césures, toutes ces choses qu'on peut donner... avec juste du niveau et de l'équalisation, par exemple, en rendant les voix un peu plus dures, un peu moins dures, un peu plus vivantes, un peu moins vivantes.
Le mixage qui vous aura donné le plus de mal?
L'enlèvement de Michel Houellebecq, qui s'est tourné très très rapidement, qui avait un scénario réduit vraiment à sa plus simple expression, puisqu'il n'y avait pas vraiment de scénario, il y avait des situations. Et les scènes se faisaient en impro, quoi. Les prises duraient des fois 1h30, 1h40. Pendant ces 1h40, il y avait 4 caméras. Tout le monde bougeait, les caméras, tout ça. Il y avait Françoise Lebrun qui arrive pour voir Michel Houellebecq au début du film. Elle s'installe au piano et elle commence à jouer. Personne n'avait prévu ça. Donc, espèce de branle-bras quand même. On n'arrête pas la scène. On filme comme si c'était un documentaire. Puis après, le mixage de ça, c'était assez rigolo aussi parce que c'est un joyeux bordel qu'il fallait remettre en forme pour que ce soit quand même audible après.
Une définition possible de votre métier?
Je dirais que c'est celui qui cuisine la bande-son.
Olivier Dohu, merci.
Benoît Laguen.
Oui, Joachim Pinto, vous avez travaillé avec les plus grands cinéastes, Raoul Ruiz, Manuel de Oliveira, João César Monteiro. Quel est celui qui vous aura peut-être le plus appris en termes de son, de travail sur le son, justement?
Forcément, Oliveira, non, parce qu'il maintenant, il est très, très vieux. Mais quand j'ai commencé à travailler avec lui, il était déjà assez âgé et il écoute très mal. Il a des problèmes d'audition. Alors, j'ai compris que le plus important pour arriver à travailler avec lui, c'était toujours lui donner des casques et qu'il arrive à bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Et avec Oliver, quand il fait confiance, alors ça se passe très bien. Je crois que le metteur en scène avec lequel j'ai plus appris, c'était vraiment Werner Schroeter. Parce que c'est quelqu'un...
Immense mélomane.
Oui, voilà. C'est quelqu'un, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a une écoute très, très attentive et qui fait quelque chose qui, pour moi, était absolument unique. Ça veut dire chaque jour, après les tournages, qu'il faisait, parce que malheureusement, il est mort, après le tournage, on voyait les rushs qu'avec les techniciens. pas d'acteur, etc. Ouais. C'était seulement image, son. Chef Enetro, évidemment. Et chaque prise, il disait des choses absolument précises. Ça veut dire il nous ouvrait les yeux et les oreilles et on comprenait la direction qu'on devrait suivre et comment on devrait travailler. Et aussi, au niveau montage, c'est quelqu'un de très inattendu et très créatif. Alors, probablement lui.
19-20, le rendez-vous.
Plateau anniversaire avec vous, Bruno Nahon, producteur de télévision et de cinéma. Vous avez 40 ans aujourd'hui même. Je sens que la fête se prépare chez vous. Et déjà deux films produits césarisés, Les Invisibles de Sébastien Lifshitz, meilleur documentaire en 2012, et puis Louise Wimmer, meilleur premier film en 2013. Vous êtes le créateur et producteur de la série Ainsi soit-il. La saison 2 vient de se terminer sur Arte. Une série qui raconte les aventures d'une poignée de jeunes séminaristes en pleine crise de foi. Ça a été la première série maison programmée en prime time sur Arte. Vous êtes producteur, qu'est-ce qui vous avait amené à un tel terrain de fiction? Parce qu'au départ, c'était plutôt les documentaires.
Ouais, j'ai fait plus de 10 ans de documentaires et c'est probablement la meilleure école qui soit. C'est une école de travail, de labeur, et où il faut constamment écrire et réécrire une histoire qui est en train de se faire devant vous, là où le cinéma est beaucoup plus organisé que le documentaire. Donc, grâce au documentaire, vous apprenez une chose, c'est que le réel est toujours plus fort. Vous n'aurez de cesse en fiction d'essayer de rattraper la folie et l'inventivité du documentaire. Donc, en documentaire, j'ai eu la chance de pouvoir aider à raconter des histoires de différents cinéastes pour la télévision. Et de travailler aussi pour la télévision donne aussi un rapport avec le public et une nécessité d'un rapport avec le public que vous n'avez pas quand vous êtes au cinéma, quand vous travaillez pour le cinéma. Donc, c'est probablement moins sexy. Au début, moins glorieux, moins il n'y a pas de canne, etc. Donc, mais vous apprenez à être dans une case, à surprendre aussi les gens qui vont tomber sur cette case. Et l'idée, c'était à chaque fois de déjouer ce qu'on pouvait attendre de nous en télévision. Ensuite, on s'aperçoit du fait qu'on a envie de parler probablement à un nombre de gens un peu plus importants
que le cinéma, bien
sûr. Que le documentaire, et que là où s'arrête le documentaire commence la fiction. Et c'est vrai que souvent en documentaire vous êtes frustré parce que vous n'avez pas pu filmer telle scène ou vous n'avez pas pu organiser le récit au montage comme vous auriez pu le vouloir. Donc à un moment la fiction devient une nécessité, en tout cas pour moi en tant que producteur. Mais c'était, j'ai envie de dire, le premier. Mes premières émotions sont évidemment de la fiction. Mais en fait, je n'ai pas fait de la fiction parce que quand j'étais petit, je voyais des camions dans la rue, des camions de technique. Et je me suis dit, mais c'est impossible pour moi, un jour, de faire des films avec tous ces camions. C'est-à-dire, comment je vais faire pour les appeler, pour qu'ils se garent, pour...
Pour qu'il y ait autant de camions de technique.
Non, mais quand on est petit, on se balade. Voilà, on se balade. Mon père m'emmenait souvent dans Paris, me balader. Je n'habitais pas à Paris, on habitait en banlieue. Et on croise des tournages. Ouais. Et la grosseur des camions fait que dès que j'ai commencé à faire ce métier, je me suis dit, je ne peux pas faire de la fiction parce que c'est ça. Donc, le docu, c'est super. On est trois, on prend une caméra, une perche et on y va.
Manu Farine.
Rodolphe Tissot, l'un des réalisateurs de la série, d'Ainsi soit-il, parle de votre fascination pour le monde de l'Église comme étant à l'origine de la série. Par quoi passe cette fascination?
Cette fascination, elle passe par le fait que... étant d'éducation juive, il n'y a pas d'église au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation pyramidale, il n'y a pas d'image dans les synagogues, et il n'y a pas d'habits, il n'y a pas cette magnificence qu'on peut voir à Rome et qui m'a toujours scotché quand j'étais petit. L'accès à la culture que j'avais était par la télévision. Et à la télévision, je voyais notamment lors des retransmissions papales, qui étaient très populaires à l'époque avec Jean-Paul II, de Noël, de Pâques, etc., des images que même Hollywood ne peut pas produire. C'est-à-dire que c'est des centaines de milliers de gens dans la rue à chaque apparition du pape. À chaque fois qu'il pose son pied par terre, il embrasse le sol. Et moi, tout petit, je me suis dit, waouh, c'est scotchant, ces gens, quoi. Il y a quelque chose, il y a un mystère, il y a une beauté là-dedans que moi, je n'ai pas, parce que de toute façon, c'est plutôt strict, plutôt aride comme représentation. Il n'y en a pas, de toute façon. Et aussi, le fait de croiser des prêtres, parce qu'ils sont étrangers à moi, dans des lieux publics, habillés, il y a un charisme et une aura, automatique. Et donc, à quelque chose que je ne comprends pas, j'ai envie d'aller voir derrière et de me dire ça, j'ai envie de le raconter parce que je ne le connais pas, mais je sens qu'il y a un mystère qui peut me happer et donc happer aussi les spectateurs.
Pourquoi fallait-il passer par la série et non pas par le film de fiction, par le cinéma ? Qu'est-ce que la série vous permettait de dire ? Vous
la série,
un spectateur de séries télévisées américaines notamment.
La série, elle permet de rentrer aujourd'hui dans des vies humaines, dans leur fragilité, dans ce qui ressemble plus à la vie de quelqu'un et de plusieurs personnes sur des années. Aujourd'hui, la série, comme le feuilleton et le roman à feuilleton au 19e siècle, est peut-être la forme la plus proche et la plus efficace, entre guillemets, pour raconter, justement, pour ne pas écraser le récit avec des contraintes de scénario qui seraient celles d'un film de cinéma où vous êtes obligé de réduire et de rendre efficace le propos. Or, dans une série, vous allez filmer quelque chose de magnifique qui est l'insignifiance. Vous allez avoir des choses insignifiantes qui fait partie de nos vies. On est même 90% de ce qu'on fait, c'est insignifiant. Au cinéma, on va essayer de garder que les choses les plus fortes qu'on fait. En série, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Après, il faut le tendre et le rendre conflictuel. Ça, c'est notre travail en tant que scénariste, que producteur, que créateur. Mais c'est ce qui ressemble le plus à la vie et c'est moi ce qui m'émeut le plus aujourd'hui.
Manu ?
Comment est-ce que vous concevez le rôle du scénariste et du réalisateur quand vous montez un projet ? Est-ce que c'est à l'américaine, c'est-à-dire que c'est le scénariste le patron ?
C'est les scénaristes et le réalisateur ou scénariste et producteur ? Scénariste et réalisateur.
Et réalisateur.
Et ça sera,
rapport de
vous êtes auteur et producteur.
Moi, non, j'ai la chance de pouvoir avoir des idées et ensuite les partager et les rendre visibles par les spectateurs des années après. Les scénaristes, comme les réalisateurs, c'est la raison pour laquelle je fais ce métier. C'est-à-dire que c'est par amour d'eux, par amour de chercher ce qu'ils ont dans leur tête et de les aider à le raconter de façon la plus ouverte possible, que je fais ce métier. Donc mon travail, c'est de les mettre au centre du processus. Toujours. Le scénariste et le réalisateur en série, le metteur en scène au cinéma reste la pierre angulaire. C'est-à-dire que un film ressemblera à son metteur en scène. Aussi nul soit-il, aussi bête soit-il, aussi formidable, créatif, poétique soit-il, n'importe quel film va ressembler à celui qu'il met en scène. Sur une série, la beauté d'une série, c'est le collectif. On a la chance d'être quatre sur Ainsi soit-il, deux scénaristes, Rodolphe Tissot, réalisateur et moi. Cette série-là, elle nous ressemble à tous les quatre. Et je ne peux pas vous dire exactement ce qui ressemble à l'un ou à l'autre, mais à tous les quatre.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé un son, et voici ce que vous avez apporté, Bruno Nahon. L'identification de ce son est la raison pour laquelle vous nous l'avez demandé, Bruno ? Non ?
C'est un film de Spike Lee qui s'appelle Mo Better Blues, joué par Denzel Washington, qui raconte l'histoire d'un trompettiste à New York. C'est un film assez mineur pour tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment le film que j'ai vu le plus au monde. C'est un film qui est de Spike Lee, qui est un réalisateur fondamental pour moi, parce qu'il avait la rage que j'avais, que j'ai toujours aujourd'hui, quand je me lève le matin. Et le jazz, parce que sans ce film, j'aurais pas pu être ouvert au jazz et probablement à la musique en général. Et que le jazz concentre tout ce que je peux aimer dans l'art, c'est-à-dire un sens de la mélodie, une esthétique, quelque chose de simple et de l'improvisation. Et voilà, j'ai jamais trouvé... Tout découle du jazz pour moi. Le XXe siècle, c'est le siècle du jazz pour moi. C'est une musique qui m'est proche. Et ce film, que j'aurais jamais dû rencontrer, parce que j'avais pas la possibilité de voir là où j'étais ce type de film, je l'ai rencontré un jour. Et ça a changé un peu de ma vie.
Le rendez-vous, la session.
Eh bien, musique tout de suite. Musique encore avec la programmation des... Comment, Lucille ?
On reste un peu de jazz, ça va plaire à Bruno Nam.
J'avais l'impression que vous parliez sur ma voix, mais j'ai dû rêver. Lucille Como, donc aujourd'hui, la session que vous défendez, et c'est Guts.
Oui, session funk avec Guts, beatmaker et producteur français. Il revient avec un nouvel album, Hip Hop After All, une manière de revenir à ses premières amours après plusieurs opus instrumentaux en solo. Là, il est allé aux États-Unis pour enregistrer cet album avec des artistes de la scène new-yorkaise et californienne, entre autres le chanteur Patrice, la rappeuse Radiga ou encore le chanteur Liron Thomas qui est là ce soir dans le studio 108 avec Florian Pellissier au clavier, Slick Tim à la basse, Greg F à la guitare et Guts, bien sûr, au sampler. Et vous jouez Man Funk, c'est à vous.
Similac. I can tell by your friendly chat, you're up for the Milky Wax. These notes will ignite you, and my chest hair will entice you. Before the night is done, we'll have lots of fun. That bouncy way you strut, you slip me out the cup. Why know you want my stuff? Cause my funk is real enough. A sex panther on the chase, that scent you want to taste. Pheromones all over the place, got you hot, look at your face.
Know what you're wearing tonight and what it means. You know all the nasty things it's to bring.
Peripherally hitting me with the mind game, subliminally letting me know that we can play.
Got good sense to know that those you got, you let me own the field and take the yard.
Take this money and buy you, gonna make this money and rob you. With the man from funk in my hand.
Guts et ses musiciens dans le studio 108, l'album Hip Hop After All apparu au label Heavenly Sweetness. Ils seront en concert le 19 novembre à la Maroquinerie à Paris, le 21 à Lille, le 22 à Saint-Germain-en-Laye. Les autres dates sont sur le site du label.
C'est moi qui décide, mais c'est pas Google.
Puis on avait cogné sur ces containers vides.
On avait gagné.
Ça veut dire nous ouvrir les yeux et les oreilles et on comprenait la direction qu'on devrait suivre et comment on devrait travailler.
Merci à nos invités Joachim Pinto. Et maintenant, eh bien, ça sort en salle mercredi prochain. Bruno Nahon, je rappelle que la saison 2 d'Ainsi soit-il et la série documentaire Capitalisme sont disponibles en coffret DVD sous le label Arte Vidéo. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
The hours passed and the waiting began. The silence grew ever deeper and the volcano La Soufrière shrouded itself in clouds.
Demain, cinéma et musique avec le cinéaste Werner Herzog et le chef d'orchestre Emmanuel Krivine. La dise annonce Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagagne, Manu Farine, Lucille Como, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote. Journal de la culture Zoé Sfez. À la prise de son, Élise Le, Tophar Guéride et à la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Il est 19h53, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.